s'était donné autant par reconnaissance, par admiration, que par tendresse, heureuse de le rendre heureux, goûtant une joie à n'être qu'une petite enfant entre ses bras, une chose à lui qu'il adorait, un bien précieux, qu'il baisait à genoux dans un culte exalté. De la dévote de jadis, elle avait encore l'abandon docile aux mains d'un maître âgé et tout-puissant, tirant de lui sa consolation et sa force, gardant, par-delà la sensation, le frisson sacré de la croyante qu'elle était restée. Mais, surtout, cette amoureuse, si femme, si pâmée, offrait le cas délicieux d'être une bien portante, une gaie, mangeant à belles dents, apportant un peu de la vaillance de son grand-père le soldat, emplissant la maison du vol souple de ses membres, de la fraîcheur de sa peau, de la grâce élancée de sa taille, de son col, de tout son corps jeune, divinement frais. Et Pascal, lui, était redevenu beau dans l'amour, de sa beauté sereine d'homme resté vigoureux sous ses cheveux blancs. Il n'avait plus sa face douloureuse des mois de chagrin et de souffrance qu'il venait de passer. Il reprenait sa bonne figure, ses grands yeux vifs, encore pleins d'enfance, ses traits fins où riait la bonté. Tandis que ses cheveux blancs, sa barbe blanche, poussaient plus drus, d'une abondance léonine, dont le flot de neige le rajeunissait. Il s'était gardé si longtemps dans sa vie solitaire de travailleur acharné, sans vice, sans débauche, qu'il retrouvait sa virilité, mise à l'écart, renaissante, ayant la hâte de se contenter enfin. Un réveil l'emportait. Une fougue de jeune homme éclatait en gestes, en cris, en un besoin continuel de se dépenser et de vivre. Tout lui redevenait nouveau et ravissant. Le moindre coin du vaste horizon l'émerveillait. Une simple fleur le jetait dans une extase de parfum. Un mot de tendresse quotidienne, affaibli par l'usage, le touchait aux larmes comme une invention toute fraîche du cœur, que des millions de bouches n'avaient point fané. Le « je t'aime » de Clotilde était une infinie caresse dont personne au monde ne connaissait le goût surhumain. Et, avec la santé, avec la beauté, la gaieté aussi lui était revenue. Cette gaieté tranquille qu'il devait autrefois à son amour de la vie et qu'aujourd'hui ensoleillait sa passion. Toutes les raisons qu'il avait de trouver la vie meilleure encore. À eux deux, la jeunesse en fleurs, la force mûre, si saine, si gaie, si heureuse, ils firent un couple rayonnant. Pendant un grand mois, ils s'enfermèrent. Ils ne sortirent pas une seule fois de la souleillade. La chambre même leur suffit d'abord. Cette chambre tendue d'une vieille et attendrissante indienne, au ton d'aurore, avec ses meubles empire, sa vaste et raide chaise longue, sa haute psyché monumentale. Il ne pouvait regarder sans joie la pendule, une borne de bronze doré contre laquelle l'amour souriant contemplait le temps endormi. N'était-ce point une allusion ? Ils en plaisantaient parfois. Toute une complicité affectueuse leur venait ainsi des moindres objets, de ces vieilleries si douces, où d'autres avaient aimé avant eux, où elle-même, à cette heure, remettait son printemps. Un soir, elle jura qu'elle avait vu, dans la psyché, une dame très jolie, qui se déshabillait, et qui n'était sûrement pas elle. Puis, reprise par son besoin de chimère, elle fit tout haut le rêve qu'elle apparaîtrait de la sorte, 100 ans plus tard, à une amoureuse de l'autre siècle, un soir de nuit heureuse. Lui, ravi, adorait cette chambre, où il la retrouvait toute, jusque dans l'air qu'il y respirait. Et il y vivait, il n'habitait plus sa propre chambre, noire, glacée, dont il se hâtait de sortir comme d'une cave, avec un frisson. Les rares fois qu'il devait y entrer. Ensuite, La pièce où tous deux se plaisaient aussi était la vaste salle de travail, pleine de leurs habitudes et de leur passé d'affection. Ils y demeuraient les journées entières, n'y travaillant guère pourtant. La grande armoire de chêne sculptée dormait, porte close, ainsi que les bibliothèques. Sur les tables, les papiers et les livres s'entassaient, sans qu'on les dérangeât de place. Comme les jeunes époux, ils étaient à leur passion unique, hors de leurs occupations anciennes, hors de la vie. Les heures leur semblaient trop courtes à goûter le charme d'être l'un contre l'autre, souvent assis dans le même ancien et large fauteuil, heureux de la douceur du haut plafond, de ce domaine bien à eux, sans luxe et sans ordre, encombré d'objets familiers, et gaillé du matin au soir par la bonne chaleur renaissante des soleils d'avril. Lorsque, lui, pris de remords, parlait de travailler, elle lui liait les bras de ses bras souples, elle le gardait pour elle, en riant, ne voulant pas que trop de travail le lui rendît malade encore. Et, en bas, ils aimaient également la salle à manger, si gaie avec ses panneaux clairs relevés de filets bleus, ses meubles de vieil acajou, ses grands pastels fleuris, sa suspension de cuivre, toujours reluisante. Ils y dévoraient à belles dents. Ils ne s'en sauvaient, après chaque repas, que pour remonter dans leur chère solitude. Puis, quand la maison leur sembla trop petite, ils eurent le jardin, la souleillade entière. Le printemps montait avec le soleil, avril à son déclin commençait à fleurir les roses. Et quelle joie cette propriété, si bien close de murs où rien du dehors ne les pouvait inquiéter. Ce furent de longs oublis sur la terrasse, en face de l'immense horizon, déroulant le cours ombragé de la Viorne et les coteaux de Sainte-Marthe, depuis les barres rocheuses de la Seille jusqu'au lointain poudreux de la vallée de Plassans. Il n'avait là d'autre ombre que celle des deux cyprès centenaires, plantés aux deux bouts, pareils à deux énormes cierges verdâtres qu'on voyait de trois lieues. Parfois, ils descendirent la pente pour le plaisir de remonter les gradins géants, escaladant les petits murs de pierre sèche qui soutenaient les terres, regardant si les olives chétives, si les amandes maigres poussaient. Plus souvent, ils firent des promenades délicieuses sous les fines aiguilles de la pinède. Toutes trempées de soleil, exhalant un